sur quelque part à Blanquefort, le 21 septembre 2011.
Evento, chantier mobile numéro 8, pose ses valises à la vacherie, à Blanquefort. Les sentiers de l'utopie, From Now Here, une soirée placée sous le signe de l'exploration d'autres possibles, d'autres imaginaires et d'autres territoires. D'autres chemins aussi, ceux qu'empruntent les habitants entre deux villes en banlieue de Bordeaux, Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles.
Promeneur, randonneur.
Un voyage de création pour l'agence touriste et l'agence de géographie affective, ces deux collectifs d'artistes en résidence pour cette grande exploration du 17 au 23 septembre 2011 dans le cadre du 8e chantier mobile d'Evento.
Alors je vois donc de l'herbe, des feuilles sycomores, des branches mortes qui datent d'une vieille tempête, un coin de ciel bleu et des nuages tout blancs. Voilà. Et puis un panneau, le cycle de l'eau domestique. Et puis un chêne avec des glands dessus. Ah oui, je ne sais pas si ça m'a... si j'étais bien. Voilà, des fougères, des fleurs de nagre, quasiment fanées. Hein. Et puis un cycliste qui nous croise.
Alors je suis Sylvie Violant, je suis la directrice de l'établissement culturel Le Carré Les Colonnes. Alors la grande exploration, c'est le début d'un projet qui va durer 3 ans, qui est de travailler non pas sur la présentation de spectacles, mais sur des propositions partagées entre des artistes et des habitants sur un territoire donné qui est bien sûr celui qu'on occupe, c'est-à-dire Saint-Médard, Blanquefort et ce qu'il y a entre les deux. Voilà, la grande exploration, c'est l'idée déjà de se dire avant de commencer, enfin pour commencer ce projet où on va donner des cartes blanches à des artistes pour inventer des aventures artistiques sur le territoire, déjà d'essayer de le connaître. Donc le connaître de différentes façons, donc on a effectivement fait une randonnée qui parcourt le chemin entre Saint-Médard et Blanquefort à pied bien sûr, donc en collaboration avec l'association des randonneurs de Saint-Médard, randonnée dans laquelle bien sûr étaient conviés des gens de toutes sortes, donc il y avait 150 personnes, et puis des artistes qui ponctuaient, qui jalonnaient cette randonnée, qui la faisaient avec nous.
Je suis Mauricette, la présidente de la randonnée pédestre de la 2SM Saint-Médard-en-Jalles.
Écoutez, s'il vous plaît, vous écoutez. C'est pour la sécurité, c'est pas pour s'amuser, c'est pour la sécurité.
Le long de la Jalles du Taillant, c'est une levée pour éviter que les maraîchers soient inondés. Donc vous verrez, il y a des petites vannes, il y a tout ça, enfin, et c'est très beau. C'est très beau.
Journée européenne du patrimoine. Eh bien, écoutez, là, on va découvrir le patrimoine naturel. Voilà, ce qui est déjà énorme, la Jalles. Et puis, on va réunir deux communes. Ce qui est aussi très important, c'est le côté convivial. Le patrimoine, c'est aussi à partager.
Tout le long. Allez, on y va. Hein.
Thierry Lafolie, agent de l'agence de géographie affective. Moi, je vais leur mettre des MP3 dans les mains, des dictaphones, et je vais leur proposer de travailler sur le flot de la pensée quand on marche, donc cette espèce de la randonnée active une pensée qui peut diverger, qui peut être fuyante, qui peut être répétitive, et voilà, de travailler un peu sur cette litanie-là, et de voir... Eh bien, qu'est-ce que ça donne comme matière en termes de... Si on la transcrit en mots, si on la prend en notes, qu'est-ce que ça donne comme matière? Donc, voilà, c'est de pousser ça avec les gens. J'ai aussi travaillé un petit peu sur, en matière d'entretien, donc sur quelques questions un peu ciblées sur le paysage et sur l'imaginaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Qu'est-ce qu'il y a après ce pont? Et procéder par répétition, de leur demander une réponse automatique et puis après peut-être de leur dire « je vais revenir vous voir ». De leur reposer la question pour voir un petit peu qu'est-ce que ça change, voilà. Juste de les laisser cogiter un peu mariner avec une question pour avoir un peu ces deux niveaux, là, la réponse immédiate et puis la réponse prendre un petit peu. Moi, quand je réponds à une interview, j'ai toujours un peu ce laps de temps là qui m'emmerde. Où je me dis, mince, c'est ça le truc intelligent que j'avais envie de dire. Du coup, j'ai envie d'avoir un peu ces deux niveaux-là.
Ces artistes-là, donc c'est l'agence de géographie affective, l'agence touriste et Radio Grenouille, avaient pour mission ensuite de continuer, eux, à explorer pendant une semaine le territoire à partir de ce moment de randonnée et de faire des restitutions.
Ça, c'est un entraînement de rugby pour les jeunes de moins de 15 de l'Entente Saint-Médard, Martignas, Cantenac et Saint-Aubin-du-Médoc.
Vous faites de la randonnée, vous ?
Non.
Et en fait, au long du parcours, il y a des petites surprises artistiques. D'accord. Voilà, mais en gros, c'est un parcours entre les deux villes. On vient vers 4 ans.
C'est sympathique.
Voilà.
C'est l'heure à la bonne humeur.
Vous pouvez vous poser vos vélos, votre vélo.
C'est la journée du patrimoine. N'hésitez pas. Grâce à ce petit toucher de poulet.
Alors, à vous, je vous conseille véritablement ce petit produit saharien. Alors, on fait macérer à l'intérieur une petite croix qui a été bénie par Jean-Paul II. On rajoute quelques fleurs qui viennent des Cévennes. Une eau adéquate, une eau bleue turquoise qui a été récoltée jour de pluie à 6h du matin, jour de Pâques, dans le sud du Québec. Voilà, vous faites macérer et là, on peut boire. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Avec ça, vous allez tracer et faire des kilomètres sans vous en rendre compte. Allez, santé. Allez, allez, n'hésitez pas, si vous regrettez, revenez par ici pour 1 €.
On me propose de faire du son. D'accord. Du son sur des artistes en résidence à Saint-Médard qui questionnent le territoire. L'agence touriste et l'agence de géographie affective. Ça s'appelle la grande exploration, je crois. Il n'y a pas grand-chose de grand, en fait, dans cette affaire. C'est plus un truc sur l'intime, sur le regard, ou du moins sur la façon de regarder et d'entendre. Enfin, plutôt d'écouter. Un espèce de trip entre deux patelins. Un trip entre deux patelins. Pas grand-chose. Comme on nous dit ici, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a pourtant beaucoup de choses ici. Il y a un théâtre, il y a des marchés, il y a la piste cyclable, il y a la poudrerie qui pollue l'eau de la Jalle qui la traverse. Sonneurs de corps de chasse. Aujourd'hui, plus de chasse, plus de corps de chasse. C'était pourtant splendide. Voyage ou aventure. Partir loin, loin le plus loin possible. Se retrouver ailleurs, sans repère, sans code déchiffrable. Ni la langue, ni les gestes. Ni les inscriptions, ni les images habituelles que l'on voit sur nos murs. Perdu, délicieusement grisé par le décentrement accompli. Ça me fait penser au projet de 3 amis de l'agence de géographie affective. Il travaille sur l'aventure et l'extraordinaire. C'est quoi l'aventure aujourd'hui ? C'est quoi la grande exploration ? C'est quoi notre grande exploration ? C'est quoi votre grande exploration ? Un travail de fourmi, méticuleusement rassemblé. Ces tiers paysages, ces villes où tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à voir. Mais le silence, comme une douce démangeaison, l'invite à le gratter.
Il n'y a pas de silence, que des bruits incompris.
Fermez l'œil droit pour ouvrir l'oreille gauche. Fermez l'œil gauche pour ouvrir l'oreille droite. Décentrer son regard et faire jouer ses sens. Être à l'écoute d'ici, de là et d'ici aussi. C'est peut-être ça, cette exploration.
je propose des petits objets, l'agence touriste, des petits objets pour se promener, des petits outils en fait de promenade. Il y a les lunettes floues, qui sont des lunettes qui floutent le paysage, où tu as essentiellement les masses, tu n'as plus de perspective, du coup tu as d'autres repères. Et c'est des lunettes qui se font, c'est une expérience qui se fait à deux, une personne qui guide, une personne qui a les lunettes.
En fait, on voit même plus les couleurs. On voit, si, je vois un peu rose quand même. Je vois un peu rose et un peu brun, mais c'est vraiment parce que je vous ai vu avant. Je vois le ciel. En fait,
si je vois des couleurs et je vois ta main qui bouge.
Ah, on voit quand même des formes. On ne voit pas les détails.
On ne voit pas s'il y a une branche qu'on va trébucher, on ne voit pas l'arbre.
C'est ça, c'est système de plexiglas, c'est que si c'est pas collé, on voit rien. Et ça fait...
Des petites cordes qui sont un peu dans le sens des lunettes floues, où c'est une... t'as un guide et un guidé, un a les yeux fermés, et c'est une promenade voilà, où c'est uniquement le mouvement de la corde qui donne les directions.
On voit pas les arbres, on voit vraiment que des masses en fait. Une masse claire pour le ciel, une masse sombre pour la forêt, une masse verte pour l'herbe et une masse marron pour le sable, mais vraiment plus rien.
Ça laisse la place à l'imagination en vrai.
Ah, ou ça fait très peur. ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'on a l'imagination qui avance.
Je proposais des petites cartes de promenade discrète, qui sont des petites consignes assez courtes, où c'est une façon de se situer dans le groupe, dans l'espace. Une autre catégorie de cartes qui est, ça s'appelle les se faire, et tu te donnes un axe, un acte.
Alors, se faire écriveur. En marchant, écrire, décrire ce qui est là, là-bas, autour de soi, la situation. Alors, c'est avec planche à écrire, papier et crayon. Promenade discrète, tu progresses en marchant de travers. Tu bifurques, tu louvoies.
Comment tu t'appelles?
Là, on est sûr de les perdre.
Vous savez celle que vous allez faire?
Non, il y en avait une qui était sympa pour les petits.
Semblant.
C'était ramasser tout ce qu'on trouve.
On met tout ça dans la poche.
Voilà, c'était ça. Après, il y en a qui sont plus poétiques que d'autres, qui sont plus sur les sons. En fait, tout fait un peu envie, c'est difficile de choisir. Celle-là, je l'ai déjà lu.
Et puis, deux bouquins, un bouquin sur les champignons et un bouquin sur les nuages. Les nuages, c'est une description de nuages, hyper poétique. Vous avez trouvé un partenaire?
Là, je pense, là, maintenant, que j'aime pas marcher en groupe avec tous ces mondes-là. Ça casse la magie d'être tout seul dans la nature. C'est un peu... En espagnol, on dit un trámite. C'est un peu... il faut arriver rapidement au bout. Donc, tu n'arrives pas à contempler l'environnement, à côté des oiseaux. Il y a tellement des gens qui parlent. Mais qu'est-ce que je pense?
Pour faire marcher seul.
Seul, un petit copain. Tu vois, des pères. Et tu parlais plus doucement. C'est une autre chose, c'est comme si tu.
On se retrouve là, hein.
J'ai pas envie d'embêter le. L'environnement où je suis, tu vois, c'est comme je suis une petite. C'est une intrusion, tu vois, dans un environnement, un écosystème. Mais là, c'est un peu violent pour moi, c'est un peu violent de rentrer comme ça, avec tous ces gens en train de gueuler.
au pied.
Planer. Non, en espagnol, je pense qu'il n'y en a pas ça, ou je ne le connais pas. Planer ou arpenter. C'est une autre dimension, justement. Voilà, marche. Caminar. Caminar. Passear. Passear, c'est plutôt une balade. Passear.
Voilà, bah à partir d'une image, bam, instantanément, tu fais parole. Et après, à l'intérieur de toutes les cartes qu'on a, il y a aussi toutes les matières dans lesquelles on va puiser.
Chère agence de géographe, plein d'affection. Je n'ai pas eu le temps ce matin de chercher des cartes postales de Saint-Médard. Mais comme j'ai un peu de matériel avec moi, j'ai réussi à dessiner les bords de Jalles vers le Moulin Blanc. C'est un très bel endroit, avec une retenue qui fait comme un torrent, et l'eau est sombre. Dans le lit de la rivière, il y a des restes de crabes, des canettes, des cartouches et du sable, des algues fleuries et des algues laitues. Il y a de la vase qui fait des bulles quand on marche dessus. Il y a de la mousse et des poissons.
D'aller là où on va pas souvent, toujours. Mais elle est aussi beaucoup dans notre manière de travailler. C'est-à-dire, même quand on est en studio, dans un espace où on marche pas forcément, on va errer, on va chercher, on va fouiller sans présupposer de là où ça mène. Donc c'est plutôt ça qui... Enfin, cette chose-là, en tout cas, elle nous sert de manière de faire.
Puis il y a le rapport au corps aussi qui est vachement présent. Enfin, du coup, c'est aussi comment on cherche dans les sensations. Enfin, on vient de la danse aussi. C'est là-dessus qu'on s'est quand même rencontrés tous les trois. Et du coup, c'est qu'est-ce que les perceptions de la promenade via une promenade intérieure aussi, comment on peut aller chercher dans les canaux du corps et aller fouiller là-dedans. Qui donne aussi une autre lecture au sens.
On avait exploré lors d'un labo avec des conteurs, des comédiens, des danseurs, des musiciens, c'est ce qui s'appelle la sérendipité. Le principe de chercher quelque chose au départ, on cherche, on explore le chemin entre Saint-Médard et Blanquefort. Et le principe de la sérendipité, c'est de partir chercher quelque chose, mais en cours de route, de modifier sa recherche et de trouver autre chose. Et que finalement, c'est accepter que toute cette errance nous a amené non pas à trouver quelque chose qu'on s'était préalablement établi, mais qu'en cours de route, on a trouvé quelque chose d'autre et que c'est ce quelque chose d'autre qui nous a intéressé.
On glane plein de matières, des matières, d'abord des expériences en fait. Et chacun, soit en fonction de ce qu'il a envie, soit en fonction de ce que d'autres ont envie de tester, on se met dans la peau d'être chercheur de ceci ou de cela, et on se donne des temps, des bouts d'après-midi, plutôt des temps plutôt longs, où il y a des temps aussi où on laisse faire, et puis on sait qu'on a un moment donné... un autoportrait à faire, un texte à écrire sur tel ou tel point de vue. Et durant tous ces jours, on fait que accumuler plein de matériaux. Et après, cette prolifération, ben on organise nos tas, on les teste en les mélangeant entre eux. Donc ça peut être d'un coup une danse qui rencontre un texte, un son qui rencontre une improvisation de souvenirs de balade, ça peut être des bruitages de paysages. Et ensuite on voit ce que ça nous dit d'avoir mélangé ça. Est-ce qu'on a besoin de le structurer plus, de nommer, de trouver le vocabulaire qui va avec? Ou bien est-ce que ça nous donne une autre envie complètement différente mais qu'on va pouvoir tester dans les jours prochains? Donc on n'arrête pas de rebondir.
Des quatre commissaires d'Evento, déjà, bon, ça, voilà, c'est dit. Donc on travaille sur ce projet depuis maintenant le mois de décembre, tous ensemble. Moi, l'idée que j'avais, en fait, c'était de s'arrêter dans des lieux un petit peu insolites, dans des lieux où on n'a pas l'habitude de s'arrêter pour montrer, discuter, échanger. Entendre des choses. Donc il y avait déjà cette volonté un petit peu d'insolite, de campagne aussi, hein, je le cache pas. Même si on l'a dit tout à l'heure, ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est pas un lieu campagnard, on est à 5, allez, un petit peu plus peut-être quand même, une dizaine de kilomètres du centre-ville de Bordeaux. Mais cette volonté de s'arrêter dans des lieux qui posent aussi des questions, qui sont des qui représentent des problématiques à l'échelle et du futur.
Non, la vacherie, en fait, le lieu avait été choisi assez pour différentes raisons. La première, c'est une ferme utopique, c'est une ferme qui a été créée à la fin du 19e siècle par un illuminé, par un mec qui avait un peu un physiocrate, comme on disait à l'époque, un mec qui avait un peu l'esprit moderne dans la tête et qui s'était dit qu'il souhaitait avoir une grosse exploitation agricole et que pour s'en donner les moyens, il fallait mécaniser un petit peu l'installation de l'étable. Donc il y avait un rail où il y avait un chariot qui distribuait la bouffe pour les vaches. Il y avait un système de coulissant pour ouvrir, pour laisser les vaches sortir directement. C'était une des plus grosses exploitations agricoles, à la fois agricoles et d'élevage de la région. Et puis c'est un bâtiment qui a eu une histoire assez insolite. C'est qu'en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un bâtiment qui a été squatté par les collabos. Du maréchal Pétain et qui ont mis à sac cette exploitation et le propriétaire avait plus de 70 vaches, il en a perdu 20 parce qu'ils ont, littéralement expulsé cet exploitant et ensuite la vacherie a complètement périclité et donc il y a eu cette volonté de la mairie de Blanquefort de la racheter pour lui redonner cette destination qu'elle avait précédemment de ferme. Mais de ferme un petit peu pédagogique, de ferme un petit peu expérimentale, où l'idée c'est de mettre en valeur les produits locaux. Et puis il y avait une deuxième raison, c'était aussi qu'il y a 2 ans, la ville de Blanquefort avait organisé un festival. Et en fait, tous les ans, ils organisent, c'est Blanquefort Utopies ou Blanquefort Flan. Voilà. Et donc cette année-là, c'était les Utopies, c'était le collectif Alpage que je reçois encore tout à l'heure, qui avait fait cette manifestation. Voilà, donc c'était un moyen aussi de faire retour à cet endroit-là sur cette question de l'utopie, quoi. Voilà.
L'utopie est-elle réalisable? Je pense qu'il y a des gens qui l'activent, en tout cas. Définir ce terme aujourd'hui. Il se trouve que Bruce a produit ces derniers temps un texte assez court que je vais peut-être vous lire à sa place puisqu'il n'est pas là, où il définit cette question de ce concept de l'utopie. C'est un texte qui est tiré en fait tout simplement d'un projet qui va naître, que vous pourrez voir à partir du 6 octobre. Hein, c'est l'exposition Racines urbaines
dans Evento, qui sera inauguré le 6 octobre et qui a été réalisé avec Arc en Rêve, Stealth Unlimited, et donc lui-même qui a produit un texte qui sert un petit peu de matrice à cette exposition. Et voilà comment il définit ce terme, d'une certaine manière. Ainsi se déroule cette discussion autour de l'imagination du futur, de la vision d'une nouvelle société, de la place de l'utopie dans la réflexion sociale et politique. Certains se méfient du mot, arguant que la société néolibérale qui les a menés au chaos se voyait elle-même comme une utopie de libre entreprise, d'autorégulation du marché, de fin de l'histoire. Il va sans dire que par le passé, l'utopie a été souvent désavouée en raison de ses excès. Trop fermée, trop idéale, trop lointaine. L'utopie, où est-ce ? Utopie, un non-lieu, un ailleurs, sans coordonnées précises, un nulle part. N'est-ce pas une fuite hors de la réalité ? Un déni du monde ? Certains, cependant, refusent d'abandonner le terme et l'idée. Nous avons besoin d'utopie, disent-ils. Non comme des constructions rationnelles et systématiques, où chaque aspect de la vie est organisé en détail et ne laisse place à aucune improvisation, mais comme des échappées hors d'une réalité terne et amendable. Il ne s'agit pas de divaguer et d'imaginer des lieux et des sociétés extravagants, mais d'inventer de nouvelles formes de vie, de nouveaux espaces, des villes inédites, des manières de faire et de voir qui élargissent le champ du possible, mais aussi du réel. Les gens délibèrent pendant des heures de leurs idéaux, de leurs projets. Chacun a une idée nouvelle à faire partager. Un ancien banquier qui veut créer un système alternatif de prêt, un publicitaire lassé de la concurrence qui veut développer une économie du sens. Un architecte ayant tout perdu qui souhaite repartir de zéro. Voilà.
Une feuille tombée, de l'herbe, de la terre. Maïs, un labyrinthe, un petit labyrinthe où on ne se perd pas. Voilà. De ça, tu devrais le trouver, tu devrais en faire ce que tu en veux.